Ladies and gentlemen,
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le secrétaire général de l'OTAN, son Excellence Jens Stoltenberg. Bonjour, je suis ravie de vous voir tous. D'abord, je voudrais remercier le Conseil Atlantique, le German Marshall Fund, la Conférence de sécurité de Munich et le Women in International Security pour la co-organisation de cet événement important. Je serai bref dans mon introduction et puis je m'assoirai et répondrai à des questions peut-être un peu difficiles. Je commence par dire que tous les sommets sont importants. Mais celui-ci l'est tout particulièrement, plus important que d'autres sommets, en partie parce que nous sommes confrontés à un environnement sécuritaire plus complexe, plus exigeant, plus dangereux, avec de nouveaux défis, de nouvelles menaces, la Russie, bien évidemment, mais aussi les violences, les bouleversements au sud de l'Alliance, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Mais en plus de cela, nous reconnaissons aussi qu'il y a des désaccords, des avis divergents entre alliés. Donc il s'agit de voir comment l'Alliance peut répondre, réagir à cet environnement sécuritaire exigeant, tout en reconnaissant que nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout. Par conséquent, il est important que ce sommet montre qu'en dépit de ces désaccords, en dépit des discussions franches et ouvertes entre nous, nous serons en mesure d'être à la hauteur de nos engagements et de prendre les décisions qui s'imposent. Et je suis sûre que nous y arriverons, parce qu'en dépit des désaccords que nous constatons, par exemple, sur le commerce, le changement climatique ou sur l'accord nucléaire avec l'Iran, même aussi en voyant les discussions sur les dépenses de défense, on constate que l'OTAN a pu renforcer ce que nous faisons ensemble à 29 alliés et ce que nous faisons aussi avec l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Premier ministre Trudeau vient d'annoncer que le Canada dirigera le groupe d'intervention ou groupement tactique en Lettonie encore pour 4 ans. Donc ce que nous voyons sur le terrain, c'est que l'Europe et l'Amérique du Nord en font davantage ensemble. Nous n'affaiblissons pas le lien transatlantique. Au contraire, nous l'avons renforcé. Et le défi est de montrer que ce sommet continue d'assurer que nous soyons en mesure de faire cela. Donc j'ai confiance. Je pense que nous pourrons prendre les décisions nécessaires et montrer que l'OTAN, comme je l'ai dit, est à la hauteur de ses engagements. Je m'attends à ce que nous nous mettions d'accord pour renforcer la défense collective en augmentant l'état de préparation des forces. C'est ce que nous appelons le 4x30, 30 bataillons, 30 escadrons aériens, 30 navires prêts à être appelés dans un délai de 30 jours. Je m'attends à ce que nous nous mettions d'accord sur la nouvelle structure de commandement. Une structure de commandement modernisée avec 2 nouveaux commandements, un à Norfolk en Virginie pour l'Atlantique et un à Ulm en Allemagne pour le soutien logistique en Europe. Et je suis sûre que nous allons aussi accroître nos efforts pour lutter contre le terrorisme avec une nouvelle mission d'entraînement en Irak et la mission de soutien en Afghanistan. Parce que nous pensons qu'il vaut mieux prévenir que d'intervenir, nous voulons former les forces locales et leur permettre de stabiliser leur propre pays. C'est pourquoi nous mettons l'accent maintenant sur la formation et le développement capacitaire pour aider ces pays à se stabiliser eux-mêmes. Et lorsque nous nous allons retrouver dans quelques heures, nous allons aussi nous réengager à augmenter les dépenses de défense. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas aujourd'hui à l'OTAN un partage équitable des charges. Certains alliés dépensent plus de 2% du PIB dans la défense, et d'autres beaucoup moins. C'est la raison pour laquelle, en 2014, nous avions décidé d'arrêter des réductions dans ces dépenses de défense. Nous devions en arriver à une augmentation progressive et puis en arriver à 2% du PIB. C'est exactement ce que nous savons, c'est exactement ce que nous faisons. Tous les alliés ont publié les chiffres. Vous pourrez trouver ça sur la page d'accueil de l'OTAN. Et là, on voit que tous les alliés ont arrêté de réduire leur budget et que de plus en plus d'alliés dépensent 2% à ce PIB dans le domaine de la défense. Il y en aura 8 bientôt par rapport à 3 en 2014. Et je crois que tous les alliés ont des plans pour arriver à ce 2% d'ici une décennie. Donc, je sais que la plupart des politiques souhaitent aussi dépenser leur crédit à autre chose que la défense. J'étais dans la politique moi-même pendant des années. Nous souhaitons dépenser ces crédits dans le domaine de la santé, de l'infrastructure, l'éducation. Et je vous ai dit aussi, lorsque j'étais ministère des Finances en Norvège, j'ai pris des mesures pour couper les budgets de défense. Donc je peux exactement vous dire comment faire. Mais ça, c'était dans les années 90. Et puis, là, les tensions avaient diminué après la guerre froide. Donc, il était tout à fait juste de baisser ses budgets, mais pour autant qu'on puisse re-augmenter ce budget de défense une fois que les tensions se font de nouveau sentir. Donc voilà. Et en Norvège, j'ai fait les deux. Lorsque j'étais ministre des Finances ou Premier ministre. Donc, il est important que les alliés comprennent bien cela. Et la bonne nouvelle, c'est que les choses bougent. Et puis, je sais que certains alliés souhaiteraient voir une augmentation plus rapide de ces dépenses de défense. Mais en tout cas, nous allons dans la bonne direction. J'ai promis d'être bref. Je m'arrête sur quelques remarques pour couvrir tous les sujets et puis je répondrai à vos questions. Mon dernier commentaire est le suivant, à savoir qu'une OTAN forte est bonne pour l'Europe et bonne pour les États-Unis. Nous avons vécu deux guerres mondiales et une guerre froide et ça nous montre que nous sommes plus forts ensemble que séparément. La présence militaire américaine en Europe est bonne pour l'Europe, mais aussi pour les États-Unis en particulier et pour l'Amérique en général, parce que cela permet aux États-Unis aussi d'utiliser cette présence militaire en Europe pour protéger les Européens, mais aussi pour permettre de projeter une puissance militaire américaine vers l'Asie et vers d'autres régions du monde. L'influence politique, économique de l'Europe et du Canada permet aussi d'aider les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup d'alliés, d'amis, des soldats américains, canadiens se sont retrouvés avec des soldats européens dans plusieurs champs de bataille. Plus de 1000 soldats canadiens, européens ont donné leur vie en Afghanistan. Donc, je vous dis cela parce que l'OTAN est une bonne alliance pour l'Europe et pour l'Amérique du Nord. Ensemble, nous représentons la moitié de la puissance économique et militaire mondiale. Donc tant que nous sommes unis, je crois que nous préserverons cet environnement sécuritaire qui nous est cher à tous. Monsieur le secrétaire général, merci de votre temps parce que je pense que vous êtes probablement l'homme le plus occupé du siège de l'OTAN ce matin. Nous souhaitons poursuivre un petit peu la discussion sur les dépenses de défense. Je crois que notre public connaît très bien le débat, mais à part les éléments comptables et le budget de défense, cela devient maintenant une question politique sur la scène mondiale. Et aussi parce que le président Trump l'a dit, vous avez déjeuné avec lui ce matin. Oui, nous avons eu un excellent jus d'orange, quelques toasts, une salade de fruits. À l'invitation des États-Unis. Très bien, je constate que, comme on le disait, vous avez le sens de l'humour, mais que pouvez-vous nous dire de cette réunion avec le président et en particulier que lui avait entendu dire de la part, en ce qui concerne l'engagement des États-Unis de rester dans l'OTAN, de respecter l'article 5, de contribuer pleinement à l'Alliance. Il dit beaucoup de choses, mais qu'avez-vous appris quant à ces engagements ? Le président Trump a dit à de nombreuses reprises qu'il était resté engagé envers l'Alliance et envers la défense collective. Il l'a répété aujourd'hui, mais aussi il l'a dit lorsque l'on s'est rencontré à la Maison-Blanche en mai. C'est ce qu'il m'a dit, mais c'est ce qu'il a dit aussi à la conférence de presse après la réunion. Il a répété son engagement envers l'article 5. Pour moi, c'est important, mais il est aussi important que cet engagement des États-Unis envers l'article 5, la sécurité européenne et l'OTAN se retrouve dans des actes, les actes étant plus forts que toute belle parole. Depuis que M. Trump est devenu président, le financement américain pour la présence militaire en Europe, l'initiative européenne de défense a augmenté de 40%. Donc il y a plus de troupes américaines, plus d'exercices, plus d'investissements dans les infrastructures maintenant que jamais. Mais en public, aux États-Unis, ils répètent que l'OTAN n'en vaut pas la peine. Ils répètent qu'ils pensent que l'OTAN est injuste envers les États-Unis. Récemment, lors d'une réunion aux États-Unis, il a utilisé un langage assez déplaisant pour décrire l'OTAN. Donc c'est assez difficile. Est-ce que c'est juste à des fins politiques? Est-ce qu'il comprend véritablement l'OTAN? Il dit que personne ne paie sa part, mais personne ne paie. Est-ce que c'est du théâtre politique, à votre avis? Est-ce qu'il comprend véritablement ce qu'est l'OTAN? Parce que il donne des messages différents. Ma tâche principale est de maintenir l'unité entre 29 alliés. Donc, il n'est peut-être pas utile pour moi de faire des commentaires sur différentes hypothèses quant à ce que pensent les dirigeants politiques. Ma tâche principale est de conserver l'unité entre nous et pour cela, je dois trouver un terrain commun. C'est vrai que le président Trump a un langage très direct. Il est parfois Il montre parfois du doigt des alliés en particulier, mais lorsqu'on en arrive au message essentiel, nous sommes tous d'accord pour dire que l'OTAN ne partage pas les charges de manière équitable. Donc là, il faut améliorer les choses. Il n'y a pas de partage équitable des coûts aujourd'hui. Lorsqu'on en arrive au financement du budget de l'OTAN, les États-Unis paient 22%. À savoir, les États-Unis paient moins par rapport à son PIB que d'autres alliés, parce qu'il y a un plafond de 22% de financement américain au budget de l'OTAN, mais on ne parle pas de budget de l'OTAN, on parle des dépenses de défense, ce qui est complètement différent. Et puis, le budget de défense américain est de loin le plus lourd. Les chiffres publiés hier montrent que les États-Unis dépensent à peu près 3,5% de leur PIB à la défense, ce qui est beaucoup plus élevé que d'autres alliés.
Est-ce que ce débat se pose en termes politiques? Il y a les problèmes financiers, budgétaires. Est-ce qu'il y a un problème politique pour l'OTAN, selon vous? Certes, c'est un problème politique. Il y a ces désaccords, parfois sur des questions qui ne sont pas directement liées à l'OTAN. Cet désaccord commercial est grave et ma tâche est de minimiser les effets négatifs sur l'OTAN. Mais nous avons des points de vue différents. Nous avons des discussions ouvertes sur les augmentations des dépenses de défense. Mon travail est de dire, oui, je vous entends fort et clair. Certains alliés, en particulier les États-Unis, veulent que les alliés européens, que le Canada, dépensent bien plus, et ce, rapidement. Mais je dis, à ce moment-là, reconnaissons la situation. Et les États-Unis demandent depuis des années qu'on dépense plus, montrant que les choses commencent à se concrétiser. C'est à mettre au crédit des États-Unis, mais sur les alliés européens et le Canada investissent pour la défense. Non pas pour faire plaisir aux États-Unis. Ils le font car c'est de leur intérêt, du point de vue de la sécurité. En plus de fournir les capacités nécessaires, cela donne un meilleur équilibre du fardeau. Vous avez parlé des échanges commerciaux. J'étais frappé par votre discours à Lancaster House à Londres cet été. Vous avez dit que ce n'était pas gravé dans le marbre que l'OTAN survivrait éternellement. Vous espérez que oui, mais il n'y a pas de garantie. Vous avez parlé des différences qui entraînent des séparations dans certains domaines. Le changement climatique, l'environnement, les accords nucléaires, les échanges commerciaux d'Allemagne avec la Russie, on en a parlé ce matin. Dans quelle mesure est-ce que cette question des échanges commerciaux et les demandes des États-Unis pour une réforme des échanges commerciaux ont un effet sur la sécurité de l'Alliance? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'effet notable sur l'OTAN. Je ne peux pas garantir que cela restera le cas à l'avenir. Mais malgré ces désaccords dans le domaine commercial, nous travaillons davantage ensemble à l'OTAN. Le lien transatlantique n'est pas unique. Il y a de nombreux liens, certains ont été affaiblis, la coopération politique, sur l'environnement, les échanges commerciaux, mais en termes de défense, nous avons renforcé le lien transatlantique. Nous travaillons davantage ensemble qu'il y a quelques années. Le tableau est donc nuancé au sujet de l'évolution du lien transatlantique. La sécurité et la défense sont renforcées, les échanges commerciaux ont été affaiblis. Au sujet du discours à Lancaster House, que vous vous inquiétez, dites-le. Le fait qu'il n'y ait pas de garantie de l'OTAN ne va peut-être pas survivre. Je l'ai dit car je crois qu'il est important de faire passer le message montrant que le lien transatlantique, que l'OTAN en tant que pierre angulaire de la sécurité transatlantique n'est pas certaine de durer éternellement. Ce n'est pas une loi naturelle qui veut que l'OTAN sera éternelle. Je pense que c'est possible. Je pense que nous devons et pouvons préserver l'OTAN, mais il nous faut un engagement politique pour cela, des décisions, et il faut aussi au quotidien continuer à s'adapter, à moderniser l'Alliance. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce que nous avons pu faire ces dernières années, nous avons lancé la plus grande modernisation de la défense collective depuis la fin de la guerre froide. Je suis impressionné par ce qui a été fait en si peu de temps. Et deuxièmement, nous avons déjà connu des accords précédents lors de la crise de Suez, ou lorsque la France a quitté la structure de commandement de l'OTAN dans les années 60. L'OTAN avait son siège à Paris. Et en 67, l'OTAN a déménagé à Bruxelles parce que la France a quitté la structure intégrée. Je n'étais pas au ministériel dans les années 60. Mais je pense que l'atmosphère n'était pas la meilleure lors du déménagement. Ensuite, il y a eu la guerre en Irak. Nous avons pu surmonter des différences graves par le passé. Et nous sommes restés unis autour de nos tâches essentielles. Et nous devons le faire encore. C'est de notre intérêt. C'est le message principal que je veux faire passer. C'est de l'intérêt de l'Europe et des États-Unis et du Canada que de rester ensemble. Avant de passer aux questions de l'auditoire sur la Russie, Monsieur le Premier ministre, vous avez rencontré Monsieur Poutine lorsque vous y étiez. Il y a eu des négociations sur les pêches. Alors, parlez-nous de Poutine. Quel genre de personne est-il ? On ne sait pas que vous allez faire des recommandations. Mais il y a un sommet très important qui va avoir lieu dans quelques jours entre le président des États-Unis et M. Poutine. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'il faudrait attendre ? Qu'est-ce que la Russie ? Quels sont les défis qu'elle pose à l'OTAN ici en Europe ? Quelles sont vos préoccupations au sujet des menaces russes ? Et y a-t-il vraiment une menace russe, qu'elle soit militaire, politique ou économique ? Nous ne percevons pas de menace imminente contre un allié de l'OTAN, mais pour nous, la Russie s'affirme de plus en plus à utiliser la force contre ses voisins, l'Ukraine, la Géorgie, les forces armées en Moldavie, c'est contre la volonté du gouvernement, il y a des activités dans le domaine cyber, d'autres activités russes qui sont malveillantes. Mon approche à l'égard de la Russie est fondée sur ce que j'ai appris en tant que politique norvégien. J'ai commencé à travailler avec les Russes dans les années 90. En 90, lorsque je suis venu ministre délégué pour l'environnement. Ensuite, en tant que ministre des finances, de l'énergie, de l'environnement, etc., j'avais travaillé avec les Russes à bien des égards. La Russie est un voisin pour nous. Ce que nous avons vu en Norvège, c'est que même au cours de la plus froide de la guerre froide, nous avons pu avoir des relations de travail avec la Russie sur des questions frontalières. L'armée norvégienne a des contacts réguliers avec l'armée russe dans le Grand Nord. Nous travaillons ensemble pour le sauvetage, pour les pêches, l'environnement, etc. Mais aujourd'hui, on a vu des mises en garde à donner au sujet du gouvernement de Poutine, de son influence en Europe. Tout à fait. Mais mon approche à l'égard des Russes est de dire qu'il faut combiner deux choses. Il faut que nous soyons forts, nous devons être fermes, et tant que l'OTAN sera unie, et tant que nous investirons dans nos défenses, nous resterons forts et fermes et unis. Tant que nous restons unis, nous pourrons avoir un dialogue politique avec les Russes. Les Russes sont nos voisins, il ne faut pas disparaître, il faut parler avec eux, dialoguer avec eux. Pour avoir de meilleures relations en partie. C'est possible, je pense. Quand est-ce que cela sera possible, je ne sais pas, mais je pense qu'il est possible d'avoir de meilleures relations avec les Russes. Pourquoi faut-il être prudent ? Dans quelle mesure ? Il faut accepter tout ce que Poutine propose ? Non, non, nous n'acceptons pas l'annexion illicite de la Crimée, n'acceptons pas la cyberpropagande, l'ingérence dans les processus politiques. Nous avons vu à Salisbury. Nous avons vu le coup d'État failli au Monténégro. Nous n'acceptons pas. Ce n'est pas un argument pour isoler la Russie, pour arrêter de dialoguer avec eux. Bien au contraire. Lorsque les tensions sont élevées, il faut parler avec les Russes pour réduire ces tensions. Même si nous ne croyons pas en une meilleure relation avec les Russes dans un avenir prévisible, il faut parler avec eux pour gérer une relation difficile. Ils ont plus de présence militaire, plus d'exercice, plus de tension. Dans ce cas-là, il faut éviter les erreurs de calcul, les incidents, les accidents. Et dans le cas où il y en a, il faut éviter de créer des situations dangereuses en laissant ces incidents évoluer de manière incontrôlée. Il faut gérer une relation difficile. Nous pourrions avoir 3 heures de questions de la part de l'auditoire, je pense. Des mains qui se lèvent. Oui, monsieur. Je pense que nous avons des micros. Est-ce que vous vous êtes présenté? Posez une question rapide. Général Kiko Yanis, général en retraite de l'armée espagnole. Et une question. Nous savons tous qu'hier, une nouvelle déclaration commune a été signée. Déclaration d'amitié entre l'OTAN et l'Union européenne. Il y a 74 points de coopération prévus. Mais je pense qu'il y a un gros problème. La coordination des plans de défense de l'OTAN avec la revue de la défense annuelle de l'Union européenne. Vous avez souvent dit qu'il n'y avait pas deux ensembles de forces. Nous n'avons qu'un jeu de forces. Est-ce que vous travaillez à la coordination des deux systèmes de planification? Merci. En deux mots, je dirais oui. Il faut assurer la cohérence entre les plans de défense de l'OTAN et les efforts de l'Union européenne pour élaborer de nouvelles capacités militaires. On ne peut pas demander une liste de capacités à l'Union, demander les mêmes capacités pour l'OTAN au même pays dans cette déclaration. Nous disons que nous devons être cohérents en termes de développement des capacités. J'ajouterai que je salue les efforts renforcés de l'Union européenne pour la défense. Je pense que cela pourra renforcer le pilier européen de l'OTAN. Mais l'Union ne peut pas remplacer ou être une substitution de l'OTAN. Cela a été souligné par les dirigeants de l'Union. Et même après le Brexit, il ne faut pas oublier que 80% des dépenses de défense de l'OTAN proviennent d'alliés non membres de l'Union. L'Union ne peut pas remplacer l'OTAN, mais les efforts de l'Union peuvent renforcer l'OTAN. Leur tourne, madame, pour vous. Monsieur le secrétaire général, monsieur Stoltenberg, Hannah Hawker, je représente l'Ukraine. Une question toute simple. L'Ukraine dépense plus de 5% de son PIB pour la sécurité et la défense. L'Ukraine contribue aussi à quasiment toutes les opérations et missions de l'OTAN. Et récemment, le Parlement ukrainien a adopté une législation très forte pour la sécurité. Nous sommes la 8e armée d'Europe. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine mérite ce programme de partenariat spécial que nous attendons pour l'été? Mais malheureusement, il y a eu un blocage de la Hongrie et nous sommes loin d'y être parvenus. Je ne pense pas que les dirigeants de l'OTAN prennent une décision sur ce programme de partenariat spécial, mais je sais que nous allons réaffirmer notre soutien à l'égard de l'Ukraine. Nous avons de nombreux outils pour développer ce partenariat. Il y a la Commission OTAN-Ukraine, il y a des paquets de soutien apportant le fonds d'affectation spéciale. Il y a de nombreuses solutions pour travailler avec l'Ukraine. Nous devons nous concentrer sur ces moyens et donner un maximum de substance au cadre existant en aidant l'Ukraine à se concentrer sur sa réforme et renforcement de ses systèmes sécuritaires. Trois autres questions. Deux questions. Soyez aussi bref que possible. Je viens du Kazakhstan. On considère de plus en plus que lorsque la Russie est considérée comme une menace à moyen terme, la Chine est considérée comme une menace à long terme. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse? Comment percevez-vous la politique de la Chine dans la région asiatique et pacifique? L'OTAN est une alliance transatlantique. Notre responsabilité principale est bien sûr dans la région transatlantique. Mais bien sûr, nous avons aussi une perspective mondiale. Nous le savons, la Chine est en croissance. Nous avons des contacts militaires avec la Chine. J'aimerais améliorer ces contacts, avoir un dialogue plus politique avec la Chine. Et bien sûr, nous renforçons l'OTAN pour qu'elle soit prête à faire face à tout défi et menace. Mais aussi, nous essayons de réduire les tensions. Nous ne voulons pas les accroître. Monsieur, en chemise bleue, John Stewart de Reuters, un autre membre qui travaille avec le Pentagone. Est-ce que vous pensez que lorsque le président Trump insiste sur la dépense de défense, c'est utile? Est-ce que ça devient contre-productif? Est-ce que cela va à l'encontre de la cohésion politique de l'Alliance? Il a un message clair. On comprend mieux l'importance des dépenses de défense et nous avons vu les dépenses augmenter. Je pense que ce que je dirais à ce sujet. Les dépenses de défense augmentent. C'est un fait. C'est là que le corps de presse dit ben, « Monsieur, j'ai une question dans la suite. » Oui, je sais. Nous ne voulons pas vous mécontenter, mais pensant dans ces 52 secondes qui restent, selon le chrono, je vous donne la possibilité de présenter l'OTAN et vos points de vue maintenant. Vous avez parlé des différences, très franchement. Est-ce que c'est grave? Est-ce que les États-Unis ont une position qui sape la cohésion de l'OTAN? Êtes-vous convaincu du fait qu'il n'y a pas d'effet négatif sur la cohésion de l'OTAN? Encore une fois, je ne suis pas professeur, je ne suis pas là pour faire donner des leçons. Nous devons rester ensemble, nous pouvons réfléchir à toutes les possibilités. Ça s'apprête à l'unité de l'Alliance. J'ai donc une seule responsabilité qui est de veiller à ce que, malgré les différences évidentes, dont vous voyez les échos dans la presse au quotidien, bien nous devons rester unis, 29 membres d'une même famille venant des deux côtés de l'Atlantique avec des dirigeants politiques différents. Mais tant que nous restons unis autour de nos tâches essentielles qui est de nous protéger et de nous défendre. Nous sommes protégés. Est-ce que vous êtes prêt à dire de quelle différence il s'agit? Pour conclure, quelles sont les différences maintenant qui vous inquiètent le plus en tant que secrétaire général?
En tant que secrétaire général, je suis assez inquiet quant aux divergences d'opinion sur les dépenses de défense, mais c'est aussi une question de message et de langage. Parce que quant au fond, nous sommes tous d'accord pour que tout le monde en fasse plus. Et j'essaie de faire la distinction entre ce qui est différents messages et ce qui est désaccord sur les tâches fondamentales. Mais pour ce qui est des tâches fondamentales, tous les alliés sont d'accord pour en faire plus. Quant au message, certains alliés mettent l'accent sur les progrès accomplis. D'autres, en particulier les États-Unis, souhaitent voir davantage de progrès et des progrès plus rapides. Maintenant que vous avez eu un petit déjeuner, je vous souhaite un excellent déjeuner et revenez nous dire comment cela s'est déroulé. Est-ce que tout le monde peut rester assis pour que le secrétaire général puisse poursuivre sa journée chargée? Et un grand merci.